Vous écoutez Radio FMR, nous sommes...
Non, Thomas, putain. On avait dit pas de neige. Pas de neige en studio.
Ah oui, pardon.
Attends, non, tu lâches le...
Je vais dehors.
Je te préviens.
Allez, une Shapska qui vole.
Pas de boule de neige en plein direct, ça va, stop. Du, c'est aussi valable pour toi. On t'y va, oui ou...
Allez, vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 9 janvier 2010. Notre programme pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR, celle d'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat des chroniques cons, gelées, que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Que quoi ?
Le premier tome de la série Sillage.
Voilà. Oui, bah ça, bon, rapport de vie, c'est aussi pas mal de...
D'accord, donc je rajoute aussi. Un film de Jean-David Morvan.
Voilà. Alors, bon, moi, je dirais que c'est du Danse avec les loups like.
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Ouais, enfin JB, il a frisé quoi. Je me suis planté en fait, voilà ce qui arrive à réutiliser les intros des émissions précédentes, parce que il n'y avait pas justement cette partie parce qu'on avait utilisé le fond sonore, c'est par les Arasustra.
Mais c'est pour que les auditeurs ne se sentent pas dépaysés parce qu'ils aient le, pour qu'ils aient leur bug dès les 5 premières minutes. Comme ça au moins ils disent ah le supplément week-end.
Ah bah c'est gentil tiens. du sport lui est parti vaillamment et a dit bah en Alsace quand il pleut de la choucroute on n'a pas peur. Thomas lui est arrivé, alors je vous dis pas parce que c'est quand même assez épais sur la route. Je pense que t'as dû te faire une frayeur avant d'arriver au métro.
Non à pied ça va, avec les grosses chaussures de montagne c'est bon.
Ah bon bah tranquille
en plus,
alors.
C'est bien parce que les voitures se font rares, alors tu peux zigzaguer sur la route, c'est cool.
Voilà, donc si vous voulez savoir d'où vient la passion de Thomas pour les plus sombres merdes qui soient au monde, sachez que il est aussi spéléologue, donc il est capable d'aller dans le plus profond trou du cul du moindre faux
moindre nanar.
Voilà, tu vois. Quoi penses-tu ? Voilà, c'est fini pour les insultes. On avait décidé qu'aujourd'hui il y aurait la galette des rois de la mort.
De la mort.
Et il fait froid, il y en a qui sont un peu malades et tout ça, et on n'a pas pu la préparer. Oui, parce que c'est une galette maison, sinon c'est pas drôle si c'est acheté en boulangerie, quoi. Donc ce sera la semaine prochaine qu'on verra ça. La semaine dernière, on avait parlé des bouquins qu'on avait trouvés qui étaient pas mal pour nos petits neveux, nos petites nièces, nos petits cousins et toutes les achetées de famille. Et en fait, on a fait une sélection avec l'ensemble de nos amis du site actuabd.com. Ce qui tombe particulièrement bien, puisque cette sélection, on a mis des points. Et là, on en est au deuxième stade, c'est-à-dire que maintenant, le jury qui est composé de jeunes élus du Conseil Général des Jeunes de la Charente vont recevoir chacun de ces bouquins pour pouvoir en choisir un, lui donner leur prix du Conseil Général de la Charente et de l'actu ABD, et un prix qui sera remis en direct le 30 janvier sur cette antenne, sur Radio FMR, dans le supplément week-end.
Voilà, un supplément week-end enregistré sur place en direct du Conseil Général de la Charente.
Non, il sera pas enregistré.
Ben, il sera diffusé en direct.
Non, il sera produit en direct, on sera en direct de là-bas. Voilà,
voilà, diffusé en direct.
Oh, et
alors, on rappelle le principe, donc il y a eu deux sessions de vote. Hein. Donc la première, ça a été dégager une liste de 15 albums qui étaient plébiscités par l'ensemble des membres d'ActuaBD. Et la règle, c'était que ces albums devaient s'adresser à un public entre 12 et 15 ans et publiés en France dans l'année précédente. Donc comme c'est le prix 2010, c'était pendant l'année 2009, du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats par mail interposés. chacun a voulu défendre un petit peu son poulain, ses coups de cœur. Et c'est vrai que c'est bon, nous connaissons depuis hier la liste des 5 nominés donc pour ce prix. Et tada, nous pouvons vous l'annoncer dès maintenant. Donc on commence par ordre alphabétique. Donc un album que Xavier a chroniqué sur cette antenne et que dont nous devions recevoir justement l'auteur. Il s'agit d'Arabico tome 1.
Qui a vraiment fait l'unanimité parmi les journalistes d'Actua BD. Hein.
Voilà, qui était dans le trio de tête, hein, donc de Ali Mahmoudi chez Cadran. Si tu veux te dire un mot dessus.
Non, rien de plus.
D'accord. Hein. Ensuite, on passe deuxième nominé, c'est L'île sans sourire d'Enrique Fernandez chez Drugstore. Donc, c'est plutôt un conte très, très, très graphique et très poétique avec une petite fille et avec ses fêlures et un vieux voyageur qui a pas moins de fêlures aussi. Donc, c'est à la limite du nostalgique. Enfin, voilà, c'est un conte vraiment qui met par terre au niveau visuel et au niveau scénaristique, qui rappelle un petit peu par certains côtés Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, le troisième tome plébiscité, il s'agit de Lou, tome 5, de Julien Neal chez Glénat.
Je ne suis pas surpris, tiens.
Oui, donc lui également a fait l'unanimité. Donc ça, voilà, les trois premiers albums, c'est le trio tête. Ensuite, Marzi, tome 5, de Savoya et Sowa chez Dupuis. Et enfin, Une vie chinoise, tome 1. Le tome 2 est également sorti cette année, mais on a choisi le tome 1 donc de Lee Kunwoo et Otier chez Kana.
Enfin, en même temps, ils vont le découvrir, donc il vaut mieux qu'ils commencent par le tome 1.
Exactement.
Logique un peu de ce côté-là. Très belle sélection. Résultat des courses le 30 janvier à midi sur Radio FMR. Et dans le supplément week-end, et donc avec nos amis du site actuabd.com.
Et on rappelle que l'année dernière, c'était le Grand Duc tome 1 de Yann et Romain Hugo qui avait remporté le prix. Romain Hugo était venu d'ailleurs recevoir son prix et des mains des jeunes élus du Conseil Général de Charente, ainsi que il faut savoir que Ron avait aussi reçu une mention spéciale coup de cœur pour Mutafukas tome 2. Les deux étaient venus justement en direct, ça nous a fait ça les avait fait aussi très plaisir, puis c'est la première fois qu'il recevait un prix d'un jury de jeunes, donc voilà. Et les jeunes étaient contents.
Ouais, on a réussi à les avoir en direct, c'est-à-dire ils sont arrivés pendant l'émission à la surprise du public, donc c'était amusant de voir ces jeunes hommes et femmes politiques voir donc la conséquence immédiate de leurs décisions. C'était sympa.
Et cette année, les élus du Conseil Général des Jeunes de Charente sont entièrement des filles.
Ah, t'es informé.
Oui, puisque c'est moi qui ai écrit l'article et il y a un commentaire qui disait « Vous auriez dû nommer le Conseil Général des Jeunes Filles
». Oh, ça, c'est sexiste.
Non, c'est vrai que c'est intéressant.
C'est intéressant, c'est pas mal. Ça va être un... Surtout, du coup... Je pense que, enfin bon, de toute façon...
Oui, c'est vrai qu'en voyant la liste des bandes dessinées, c'est vrai qu'on se dit que Lou a peut-être une chance supplémentaire.
Je ne suis pas sûr, justement. Je pense plus à Marzi.
Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant à savoir, parce que l'année dernière, on avait cru comprendre que dans le jury des quatre élus, il y avait les deux garçons qui étaient plus Mutafukas et les deux filles plus Grand Duc.
Et Grand Duc a été la surprise.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà. Donc comme quoi, attention, on peut avoir de gros a priori et ben non, pas du tout. Et justement, ce sera l'occasion de voir. Mais en attendant, on va fermer notre gueule tout simplement parce que nous ne pouvons pas influencer le jury.
Ah ouais, de toute façon, ils nous écoutent pas. Alors
podcast.
Peut-être.
Ah oui, attention. Donc on les salue, on arrive. Département de la Charente, nous braverons la neige, le verglas, les poids lourds et la montée à 20 degrés quand même de la ville.
La montée à 20 degrés en courant pour avoir une place pour assister à la remise des prix.
Ouais. C'était pas triste. Tout ça et d'autres péripéties et on va essayer de produire comme on avait tenté de faire l'année dernière. On avait fait que deux épisodes, je crois. On va essayer de faire un petit bulletin quotidien de 5 minutes qu'on va essayer de mettre en ligne. Et donc, avec nos amis et partenaires, vous faire découvrir, je veux dire, les petits trucs rigolos du festival comme cela en dehors des interviews. Programme des interviews, justement, puisque la semaine prochaine, on aura une interview qui aura été enregistrée par téléphone. Et samedi suivant, sauf erreur, partira dans l'espace avec Valérian, puisque le dernier tome de Valérian et Laureline sort normalement ce mois-ci. « point de vue du bande dessinée, il y a une information qui est très triste, qui nous est arrivée. On a appris la disparition de Tibet. Tibet, c'était l'un des dessinateurs les plus réguliers et les plus prolifiques de la Franco-Belgie. Et d'ailleurs, c'était un Franco-Belge pur et dur. Il est parti à 75 ans, le 3 janvier dernier. Il était le dessinateur de Chick Bill et de Ricochet et de bien d'autres albums. Albums qui sortaient à un rythme impressionnant de 2-3 par an. Alors parfois, je crois qu'il y a une fois où il en a sorti 5. Bref, c'était vraiment un routard de la bande dessinée. Gilbert Jascard est né à Marseille en 1931. C'est le fils d'un célèbre joueur de l'OM. Il est du sport la prend. Bon, ok. Il est parti en Belgique avec sa mère en 1936. À 10 ans, pendant la guerre, le petit Gilbert découvre Wallardy dans Spirou et à 13 ans, il rend visite chez lui à Hergé, dont il a obtenu l'adresse grâce à un de ses camarades, qui lui donnera des conseils que l'on peut résumer en trois mots. Crédibilité, lisibilité, simplicité. Le futur Tibet les appliquera consciencieusement. Il débute comme assistant dessinateur en 1946 au studio Disney. Entre autres petits boulots, c'est là où il rencontre André-Paul Duchâteau, celui qui va devenir son complice et qui scénarisera une bonne partie des albums dessinés par Tibet. André-Paul Duchâteau est aussi auteur de polar à côté. En 1951, il pousse la porte du journal de Tintin où il fera une bonne partie de sa carrière aux éditions du Lombard. Chick Bill est une parodie de western. Au départ, c'est plus dans un côté animalier. Hergé ne voulait pas de cela dans Tintin, donc c'est sorti dans une autre publication du Lombard. Mais dès le quatrième tome, on a des personnages humains. L'une des meilleures descriptions qui en a été faite, elle vient de Tibet elle-même. Marcel Pagnol au Fort West. Pour moi, c'est exactement ça, c'est clair. Tous les genres de western classiques s'y feront parodier, mis en scène comme dans un théâtre, avec des répliques hilarantes, des portes qui claquent et tout ça. Mais justement, c'est très très fun et très rigolo. Et de ce côté-là, on a 69 albums à ce jour pour une série qui a été lancée à peu près au même moment que Lucky Luke. Ton micro n'est pas branché.
C'était l'autre. Si
c'était
l'autre. Non, mais à propos de Chick Bill, il faut remarquer quelque chose. Si on remet les choses dans leur contexte, à l'époque où c'était sorti, dans les années 50, dans les années 50 puis dans les années 60, c'était une espèce de vague qui avait et qui a été assez remarquable côté français au niveau du traitement du western, c'est-à-dire l'image héroïque que les Français, que les Européens et surtout les Français se faisaient du western. Les seules illustrations qu'ils pouvaient en avoir, c'était les films, les westerns qu'ils pouvaient voir au cinéma. Et ce qui est assez remarquable, c'est que justement, tu parles de Chick Bill, mais on peut également citer plus tard Lucky Luke, bien sûr. Car le traitement du western côté français a toujours été plus ou moins ironique. Il y a toujours eu une espèce de
pas au début de Lucky Luke. Au début de Lucky Luke, c'était peu enfantin, mais premier degré, vraiment pur et dur.
Oui, mais ça rejoint exactement à ce qui s'était passé avec Chick Bill, qui au départ était un truc qui était relativement, on va dire, enfantin, et qui s'est un petit peu, on va dire, adultisé, mais sans plus. Les vannes sont devenues meilleures et tout. Il y a eu un enrichissement au niveau de la créativité, des scénarios et tout, qui a fait que Chick Bill a vraiment super bien marché. C'était vraiment une espèce de... moi j'attendais ça, quoi. J'attendais mon Chick Bill sans problème, tu vois, parce que c'était vraiment un truc super rigolo et qui arrivait juste avant en fait la super veine du journal pilote, quoi, avec tous les auteurs de pilote qui eux allaient encore plus loin, bien sûr, parce que Chick Bill ça reste gentil, ça reste sympathique, c'est quand même pour les enfants en principe.
Et d'un autre côté, moi je suis plus Ricochet. Alors Ricochet, c'est une série qui est arrivée en 1955. Ricochet est journaliste au Rafale, mais il arrive dans le journal de Tintin, donc à ce moment-là. Le principe est simple, le whodunit. Alors c'est un crime qui a été commis. D'un autre côté, Ricochet arrive sur place pour faire son article et rencontre les différents protagonistes et commence à se dire, mais qui a fait le coup?
Il va mener sa petite enquête.
Un petit peu d'action, une ligne claire très réaliste, sauf pour les personnages qui ont ils sont plus dans une optique RGN, hein, je vais dire. 76 albums, une histoire généralement complète, et là aussi, mais un humour beaucoup plus adulte, attention. Hein,
ah oui, oui.
Voire parfois des histoires relativement, enfin je vais pas dire que c'était noir, mais relativement sérieuses derrière. Dans lequel ben justement la plume d'André-Paul Duchâteau arrive à sortir la petite vanne et tout. Et surtout, Tibet qui se donne à cœur joie pour dessiner le moindre véhicule, le moindre décor et tout. C'est d'une précision impressionnante. On est proche, je vais dire, d'un assistant d'Hergé qui va percer par la suite. Il s'agit du dessinateur Yoko Tsuno, Roger Leloup. Sauf que ben Tibet, lui, il faisait tout ça plutôt tout seul. Et il continuait, en plus, à côté de cela. Tibet avait plus d'un genre à sa plume. Il s'était essayé avec talent dans la caricature. Il avait produit des histoires jeunesse, mais il restait dans une ligne claire, à la fois précise et sans prétention. Il venait de terminer le troisième tome d'Aldo Rémy, Héros sans emploi. Mais là, il est vraiment sans emploi. Il essaie d'en trouver un. Publié, fait rare chez Tibet, chez Glénat. Tibet était un dessinateur très chaleureux. Malgré la réussite de ses séries, il était toujours très proche de son public, peu avare d'une conversation. C'est vraiment quelqu'un, on pouvait l'aborder. Moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que c'était, il avait vraiment toujours le sourire aux lèvres, extrêmement sympathique, la vanne des fois qui pouvait partir à tout moment, et il adorait discuter avec son public. Il n'hésitait pas, il était, parce que quand même... dans le sud de la France, relativement peu connu, mais en Belgique, dans le nord de la France, en Suisse, il était incroyablement connu. Il a fait une série d'émissions pour la télé belge et pour la télé suisse en tant que caricaturiste en 71-72, mais il restait toujours quelqu'un de très 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 accessible, et de ce côté-là, il était très 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 agréable. C'est un auteur qui n'a pas cherché les honneurs, sinon ceux de son public, et qui dessinait une BD populaire sans prétention, sinon que celle de Ferrier. Adieu Tibet, merci beaucoup. Et on enchaîne avec les sorties bande dessinée, avec une seule BD, je suis désolé, fait un petit peu froid, j'avais froid aux doigts ce matin, j'avais du mal à démarrer. Oui, non, je sais, je suis un animateur au diesel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Patrice Buendia est un scénariste dont je ne connais pas trop la carrière, malheureusement. Jean-Marc Stalner, lui, est un dessinateur extrêmement connu. Avec son frère Eric, il a fait un nombre incommensurable de bandes dessinées, vraiment vraiment prolifique. Et Le Juge sans terre, et ben c'est donc le premier tome de cette série où ils collaborent tous les deux. Le premier tome donc s'appelle Lumière éteinte et vient de sortir dans la collection Vécue chez Glénat. On est en 1876, Napoléon III est tombé, la Commune a dépéri et la Troisième République est enfin proclamée en France, mais proclamée dans les règles avec une constitution, le respect et le partage des trois pouvoirs et tout le reste. Il est temps pour Adrien Mugrave, exilé à Londres depuis plus de 20 ans, de revenir en France pour exercer à nouveau son métier de juge. Et à son retour, on le charge du cas de Richard Sauverin, un jeune homme, excellent nageur, retrouvé noyé dans la Saône. Inutile d'en faire un dessin, même le médecin en a déduit un meurtre. Le juge est néanmoins d'un caractère assez entier. Il suffit qu'il apprenne le nom de son nouveau greffier, Antoine de Roguinvilliers, pour qu'il le méprise en tant que descendant d'une famille noble. C'est un bourgeois républicain qui ne fait pas dans la demi-mesure. Mais c'est aussi un personnage très trouble et il semble avoir un lien avec l'assassinat du Lord Rollin avec des serpents vémineux à Londres. Il semble aussi avoir des contacts avec des comploteurs. Il suffit qu'il revienne pour qu'une fille meure affreusement mutilée. Qu'est-ce qui tient du fantasme et de la vérité inavouable chez le juge sans terre ? L'histoire est passionnante, c'est un bon polar avec des références politiques précises, ça donne envie de se documenter. On sent une intrigue complexe et pas mal de choses qui font que la série va nous laisser en haleine. Mais hélas, c'est le destin de Jean-Marc Stalner qui ne va pas. Il est plutôt brouillon. C'est pourtant étonnant d'un dessinateur qui nous avait habitué à largement mieux, mais surtout dans le genre bande dessinée en costume. Moi, je n'ai pas été franchement retourné par le graphisme de ce côté-là. Je ne sais pas. Il y a un truc, j'ai pas aussi bien accroché que d'habitude de sa part. Ça reste un bon album, sincèrement. Mais il aurait pu être un très bon album. Après, c'est un très bon moment de lecture que l'on passe. Je sais pas, Thomas, tu l'as en main ?
Moi, je ne connaissais pas les autres albums de dessinateur. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt dans l'image, alors bon, moi je regarde juste le dessin, et c'est vrai que ça me semble. Peut-être pas brouillon, mais en tout cas, le trait épais comme ça, pour moi, ça manque de subtilité dedans. Mais après, des fois, tu sais, il y a des BD, le dessin ça dit rien, mais après, quand on est penché dedans, finalement ça passe. Alors je sais pas.
Et ben là, ça passe au bout d'un certain moment, mais c'est dommage. Moi, je sais qu'il est capable beaucoup mieux quand même. Le juge sans terre, le premier tome de cette série scénarisée par Patrice Buendia et dessiné par Jean-Marc Stalner, s'appelle Une lumière éteinte et c'est sorti dans la collection Vécu chez Glénat. C'est sorti en décembre, hein. Voilà, je le reconnais. Ça m'apprendra à ne pas couper les micros d'ailleurs quand je gueule les instructions aux autres. Le terme gueuler d'ailleurs.
Ouais, parce qu'en plus il gueule. Hein.
Bah oui, non mais attends.
C'est le chef, il gueule quoi.
Hey, toi le connard, t'as quoi comme chronique ?
On va te faire foutre. Bon, pardon. Donc j'ai des comics, c'est sur le même CD mais c'est sur la plage 1. Voilà.
Ah
hop,
bah voilà, ok.
Voilà. Bah voilà, Duce. S'il te plaît. S'il te plaît.
Oui.
Pas de Skrull.
Ah bah tiens, j'allais dire la même chose.
Non. Ah bah non, il y en a
mais
pas.
Mais je lui ai dit par téléphone en plus.
Mais il y en a pas. Hein. Rassurez-vous. On dirait que la mode des vilains en ce moment est plutôt aux insectes. Aux vilains insectes. Regarde là, déjà tu vois un petit peu le genre d'insecte que t'as. Alors on va commencer par ce qui fâche
on
un
va
petit
en parler.
Peu.
On va en parler de Strange justement en Angoulême. Hein. On va interviewer des nouveaux éditeurs.
Ouais. D'accord. Ok. Bon bah d'accord.
Tu peux y aller.
Ah oui, je vais y aller là. Je vais pas me gêner. Alors Strange pour les plus ceux qui sont un peu plus vieux quoi. Bon, ils connaissent bien entendu Strange qui avait été édité jusque vers la fin des années 80 me semble-t-il. Hein. Après c'est Panini qui a tout racheté, enfin bref, mais c'était quand même le magazine dans lequel on avait pu découvrir l'ensemble des super-héros, plus Marvel que DC d'ailleurs. Enfin bon, il y avait d'autres éditions hein, qui se chargeaient également de diffuser ces deux monstres du comics américain. Et là eh bien Strange refait son apparition avec un numéro 1. Qui vient de sortir,
tout petit,
un format ça fait quoi ça? Ça
moitié
fait
d'A4.
15 par 20
moitié,
quoi.
Moitié d'A4?
Non, tu as 2/3. Hein. Je dirais 2/3.
Non, c'est un. C'est un A5. C'est un format A5. Hein,
format
officiellement.
A5, donc, avec une couverture somme toute alléchante. Et au sommaire, eh bien, surtout des BD et des héros, des super-héros qui ne sont pas trop connus, hein, comme par exemple Fantastic Force, Shieldmeister.
Fantastic, mais il était déjà sorti depuis un bail. Hein.
Godland, ouais, mais enfin, bon, c'est pas des nouveautés, des inédits. Hein, je veux dire, si c'est des inédits.
Si, il y a des inédits.
C'est pas des super-héros sortis d'une néant, ex nihilo. Non. Mais par contre, bon, alors il y a quand même du beau monde, hein, quand même. Godland, c'est quand même Joe Casey avec Tom Scioli, Lorelai avec Steven Aroman et Neil Vaux ainsi que Steve Geiger, ouais, quand même. Et même une petite page qui s'appelle, alors ça vous accroche, de Jack Kirby.
Himself,
c'est plus pour frimer qu'autre chose. Alors, à prime abord, Godland, ça m'a pas du tout plu, mais ne serait-ce qu'à cause du graphisme qui rappelle justement les comics on avait l'habitude de lire dans les années 70-80 avec des tronches bizarres, mal formées, des trucs très simplistes, on va dire, tu vois. Et moi, ce qui m'horripile le plus, à mon avis, quand même, c'est les couleurs. Je veux dire, c'est à peu près un petit peu n'importe quoi, ça mélangé, mais enfin bon, c'est on dirait que c'est mal mélangé, ils ont pas fait d'effort. On sait que chez DC, on sait que chez Marvel, si vous ouvrez, si vous feuilletez simplement comme ça un périodique ou voire rien qu'au niveau graphique, au niveau couleur, vous avez une espèce de ton majeur qui apparaît, bien sûr, que ce soit chez Marvel ou chez DC, c'est pas exactement le même, mais par contre, c'est quand même assez agréable à l'œil, alors que là, on a quand même un petit peu de mal. Et le format,
c'est fluo, les années 80 sont passées.
Ouais, non, mais bon, la mise en case est digne des mises en case qu'on avait il y a 30 ans, 40 ans.
Pas facilité par le petit format.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment le défaut. Pourquoi ne pas avoir sorti un truc? Évidemment, faut se démarquer un petit peu des gros monstres qui sont édités par Panini au niveau du format, quoi. Mais quand même, là, c'est un petit plantage. Ça s'apparente carrément à ce qu'on trouve au niveau comics pour enfants. C'est-à-dire toute la littérature enfantine qu'il peut y avoir, les Spidey et autres trucs comme ça, qui ont justement ce petit genre de format qui est plus appréciable, qui est plus facile à manipuler pour des petites mains que. Mais là, vraiment, il y a un problème.
À noter que c'est l'organisation Comics Underground qui faisait Comics Café à Paris. Et qui éditait justement des comics dans ce format-là, qui a repris ça.
Voilà, c'est lui, Organic Comics.
Organic Comics, voilà. Sauf que Organic Comics c'était plus underground, donc c'était des fois des histoires largement plus crades et tout ça. Donc je ne sais pas. La question reste posée. Moi, je leur ai demandé un rendez-vous parce que j'estime que c'est intéressant de savoir ce qui me motive derrière. Ouais.
Après, le Lorelai, j'ai juste feuilleté. Niveau du graphisme, ça a l'air plus intéressant. À noter également qu'il y a une interview très complète avec en plus des photos, des affiches de films, une interview de Jodorowsky. Yeah. Plusieurs pages, quoi. Donc là, c'est pas mal, c'est sympa. Mais c'est pareil. Alors le format, les lettres sont plus petites et tout. Faut avoir de bons yeux pour lire, quoi. C'est ça, quoi. C'est un petit peu ça le problème, quoi.
Qu'est-ce qui nous fait chier, le presbyte?
C'est comme ça. Bon, alors, super et tout, du côté de Spider-Man, le numéro 120 est sorti, le numéro de janvier, scénarisé. Alors là, c'est du lourd, c'est soit Guggenheim, soit Slott, c'est-à-dire les Spider-Man en chef, quoi. Ceux qui connaissent toute l'histoire de Spider-Man, qui sont chargés de chapeauter les autres scénaristes qui connaissent pas trop l'histoire de Spider-Man pour dire, ça tu peux pas faire parce que, rappelle-toi, quand machin, truc bidule. Et eux, ils sont vraiment à fond.
Tu as le bouffon vert en opposition avec tu relances le 3D.
Il faut dire que dans ce 120 scénarisé par Dan Slott et dessiné par Chris Bachalo, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors je vais vous résumer très vite fait. Quand tu vois la tronche de Spider-Man en photo, là il est chopé par menace. C'est le vilain là qui est un petit peu apparenté au bouffon qui a les mêmes caractéristiques que le bouffon vert, sauf qu'il est gris. Tu vois, sinon il se déplace également sur un surf.
Ça rappelle Hulk gris, Hulk vert aussi, tiens.
Mais on découvre vers la fin de l'épisode, c'est la suite, mais c'est un numéro complet avec juste que l'histoire de Spider-Man, avec toujours le tueur au traceur et justement Menace. On apprend enfin qui est Menace, mais à la fin de l'épisode, Peter Parker, alias Spider-Man, il est en prison. Il s'est fait choper. Menace l'a chopé et l'a filé aux flics.
Ouais!
Et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Va-t-il se démasquer en prison? Que va-t-il faire? Ça, c'est dans le Spider-Man 120. Excellent. Très bon niveau là vraiment vraiment très très bon niveau. Passons chez les concurrents, toujours chez Panini. Alors Superman et Batman, alors deux numéros déjà, le hors série qui est une histoire complète, la reine des insectes et la traînée des ombres. Alors c'est les dernières histoires de Superman scénarisées par Kurt Busiek, qui a vraiment beaucoup fait, énormément fait pour Superman, pour le rendre un petit peu plus actuel, moins ringard, on va dire. Et il y arrive vraiment très très bien. Là, bon ben c'est pareil, hein, je te disais, les insectes, il y en a à la toque, il y a que ça, quoi, de toute façon, quoi. C'est vraiment du très bon boulot. Moi, j'étais pas fan de Superman à fond les manettes, tu vois, connaissant le personnage. Mais là, ben, il arrive à nous intéresser. Kurt Busiek, qui est également présent dans le Superman et Batman, le numéro classique, hein, celui de décembre-janvier, le numéro 18, avec une histoire complète de Kurt Busiek en 3 épisodes, le 3e Kryptonien. Ouais, bah ouais, il y en a un 3e, figure-toi. Et en plus, c'est le fils adoptif de Superman, parce que Superman s'est marié, bien sûr.
Ah ouais.
Et la cerise sur le gâteau, bien entendu, moi je la jette plus pour ça d'ailleurs que pour Superman, mais enfin bon, j'en profite quand même, quoi. C'est bien entendu Batman, R.I.P., la fin du Chevalier Noir.
Ouais.
Grant Morrison au scénario et Tony Daniel au dessin.
Wow.
Et je vous assure.
Wow, putain.
Je vous assure que quand l'histoire sera terminée et que le volume cartonné ou le volume sera sorti, c'est-à-dire l'histoire complète,
donc on a un qui va l'acheter.
Ça va dépoter grave, parce que là vraiment, je sais pas où ils vont, mais tu vois, le gant noir là qui tient Alfred en otage et tout, quoi. Et je peux te dire que là, pour l'instant, Batman,
il emmène pas large. Ah, il y a
Magneto,
mais il est rouge.
Ben parce que c'est Batman de Zur-En-Arrh.
Parce que là, on dirait franchement Magneto, c'est rigolo.
Ah ouais, non, mais là, bon, c'est le Batman, mais là, il est pas content, à mon avis, du tout.
Ah,
il a un problème d'identité. En fait, il a un gros problème d'identité, quoi. C'est-à-dire, il ne sait pas qui il est.
Il est névrosé.
Ouais, oh. mais à fond, quoi.
Pas de
là,
bol.
À fond. Donc ne serait-ce que pour le Batman, de toute façon, hein, ça vaut le coup de l'acheter, quoi. Bon, c'est trop court, mais c'est vraiment excellent. Depuis le début, hein, de R.I.P., la fin du Chevalier Noir, là, vraiment, ils vont très très loin.
Radio Éphémère, midi 33 minutes et 7 secondes, et nous sommes désolés pour la régie publicitaire, mais il n'y a pas de pub. Red Snapper, Image of You, avec Alison David au chant. Extrait de l'album Making Bones.
Wanted me to be an image of you.
satisfy your greed. I've been too soft, too light for your touch. And it's too hard for your grasp, too solid for your skin. Watch me step out of your shadow. Pull in the sun once more.
Un de ces quatre, il faudra que tu fasses un montage des intros chantées par toi de cinéma.
C'est ça. Allez.
Alors aujourd'hui, je disais en off tout à l'heure, on va parler de bonne bouse aujourd'hui, puisque y en a marre de parler d'avatar, de tuerie comme ça, à la force, c'est lassant. Et puis en plus, c'est vrai que si on parle que de bons films, on les savoure plus, quoi. Donc c'est vrai que revenir à de la bouse, c'est quelque part c'est sain. Puis bon, c'est faut avouer aussi que ça défoule, quoi. C'est voilà, on rigole. Bon après c'est vrai que bon, on a qu'une émission par semaine, alors bon, c'est vrai que la partie cinéma des fois à traiter de la bouse, ben c'est d'autant moins de place pour des bons films. Mais bon, ça hein, on fait ce qu'on veut hein, après tout. Alors, il s'agit aujourd'hui de G.I. Joe, le réveil du cobra. Depuis le temps que j'en parlais, je disais, tiens, la semaine prochaine, on parle de G.I. Joe, et puis finalement, non, pour faire Avatar à la place, bon.
Et là, t'as profité, il y a de la neige, on peut sortir les jouets et les pétards.
Voilà, les petits pistolets laser et tout. Alors, on en profite parce que le film est sorti en DVD en décembre 2009, donc il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un film de Stephen Sommers. Alors, Stephen Sommers.
La momie
de Van Helsing, que du bon.
Ah ouais, de l'exceptionnel dans sa filmo.
Voilà, alors, je vais pas vous dire que c'est du casting lourd. mais il y a du casting nombreux. Alors, Channing Tatum, bon, peut-être que ça vous dira rien.
Oui,
oui, d'accord. Bon, c'est le beau gosse blanc, voilà, qui ressemble un peu à celui qui joue la torche dans les Quatre Fantastiques. On a Marlon Wayans, donc les frères Wayans, oui. Scary Movie, tout ça. Bon, pas que, hein, mais Sienna Miller.
Oui.
Donc, qui joue la méchante en latex, ça le fait.
L'ex de Jude Law.
J'ai vu ça, j'ai vu qu'il l'avait trompé avec la nurse.
Avec la nurse,
voilà,
ouais,
tout
ouais,
à fait.
Ouais, mais il y a deux ans, là, ça avait fait les choux gras de la presse quotidienne anglaise.
Voilà, tout à fait.
Oui.
On a également Byung-Hun Lee, alors c'est celui qui jouait dans Bittersweet Life. Et également la brute et le cinglé, le film coréen qui est sorti récemment. On a Rachel Nichols, alias. On a également Saïd Takmaoui.
Voilà, ah ouais, lui,
voilà,
normal.
La haine, bon, le petit français qui a bien décollé à Hollywood, les rois du désert. Dennis Quaid.
Yes.
Arnold Vosloo.
Yes.
On parlait de la momie. Adewale Akinwumi-Agbaje. Bon, voilà. Hein, Oz et Lost.
Voilà.
Voilà. Christopher Eccleston. Brendan Fraser dans un petit caméo bien rigolo.
Ouais, c'est normal, c'est son pote maintenant.
Voilà. Et donc l'inévitable Ray Park, encore un héros masqué, donc Dark Maul, le crapaud dans X-Men, ben, voilà. Alors l'histoire, attention.
Attends, tu as dit l'histoire?
Oui, l'histoire, attends, j'ai fait un pavé parce que je me disais, soit je fais en deux lignes parce que ça mérite que ça, soit je développe un peu et là ça vaut vraiment le détour parce que c'est rigolo. Alors, chargés d'escorter avec leur unité de l'armée une mystérieuse mallette capitale d'un point de vue militaire, Duke et Ripcord se font damer le pion par un commando surarmé. Mais... Et la surprise, l'ex-copine de Duke est aux commandes de ces hommes louches. Ça tombe bien. Mais au dernier moment...
Tu as oublié de payer la pension alimentaire.
Voilà. Mais au dernier moment, un commando, lui aussi très mystérieux, sauve les deux loustiques. Il s'agit des très secrets G.I. Joe, unité d'élite parcourant le monde pour lutter contre les méchants.
Ah.
Duke et Ripcord vont ainsi passer les examens d'entrée parce qu'ils disent « Bon, finalement, votre commando est trop cool, on veut faire partie. » Et ils vont tenter de séduire l'une des instructrices, bon, normal, hein, c'est des séducteurs, et chercher à comprendre pourquoi l'ex-fiancé Nitouche est passé du côté obscur, et pourquoi son frère disparu pendant la guerre en Irak est devenu un scientifique fou défiguré, psychopathe.
Ouais.
Voilà, ça, c'est ça le scénario, en fait. Voilà.
Alors, clair, j'ai pas mis les effets sonores, j'ai bien fait.
Alors, il faut savoir que le film est sorti à peu près en même temps que Transformers 2.
Bah ouais, c'est con, hein.
À une autre grosse bouse.
Bah ouais.
Mais c'est vrai que Transformers 2, on avait quand même un petit plaisir masochiste à se faire lobotomiser. Je trouve qu'il y avait un côté un peu plus, enfin, fun à se faire prendre pour un con. Je trouvais que on avait l'impression de voir Michael Bay nous faire un gros doigt d'honneur en pétant les plombs avec ses jouets très chers. Genre, bon, rien à foutre, je pète un câble, voilà, je vous livre 2h30 d'explosion avec un gros plan sur les couilles d'un Transformer, un mini Transformer qui s'excite sur la jambe de Megan Fox, une espèce d'étudiante nymphomane qui est en fait un Transformer déguisé, enfin voilà, que de la belle connerie, mais en même temps, t'avais un plaisir finalement masochiste derrière ça. Tu dis, ah là là, qu'est-ce que je suis pris pour un con, mais c'est tellement énorme que finalement, il y a un intérêt. Ben là, non, en fait, là, G.I. Joe, t'es pris pour un con, bien sûr, encore. Mais jamais tu ris, c'est jamais fun, t'as l'impression que c'est écrit par des mioches, avec une certaine ambition mal placée quand même. Tu dis ouais, mais on est cool, t'as vu, on est en latex, on a des plein d'armures pour faire des jouets, on a un méchant stupide, il est neutralisé par un autre méchant encore plus ridicule.
Ouais, et puis d'un autre côté, il y avait eu tous les films, tous les dessins animés, bandes annonces, là,
oui.
qui étaient scénarisés en plus par Garth Ennis, qui étaient assez noirs. Donc on savait que ça allait pas être de la rigolade.
Ah bon, Garth Ennis, ça fait un truc noir? Non. C'est surprenant.
Oui.
De ce côté-là. Bon, en même temps, c'est G.I. Joe. Bon,
voilà. Voilà.
Alors on a un héros qui est crétin au possible. On a une histoire qui finalement fait passer Furtif pour du Bergman. Donc c'est... franchement, c'est... Je dirais pas que c'est à voir tellement c'est nul, mais en tout cas, c'est même pas un nanar tellement c'est mauvais. On a quand même des grands moments. Hein. On a... La tour Eiffel qui se liquéfiait par du slam géant, vert fluo en plus.
On a des ils en ont trouvé du slam. Hein,
ah ouais. On a des combats de sous-marins avec des missiles qui font toc. On a la découverte des super armures ressemblant à des jouets Action Man. On a le fil rouge qui fait rire. Alors, oui, il faut dire que pour avoir une espèce de background un peu intelligent, ils ont dit, tiens, les deux ninjas, c'est des amis d'enfance. Alors, il y en a un qui s'appelle Storm Shadow et l'autre Snakes. Et alors, il y en a un, c'est marrant parce que le ninja blanc, c'est le méchant, le ninja noir, c'est le gentil. Bon, c'est rigolo, voilà. Alors, le ninja blanc, chaque fois qu'il est au repos, il est toujours torse-poil. Donc, c'est le coréen dont je parlais tout à l'heure. Donc, il est beau gosse, alors il faut en profiter. Alors, par contre, l'autre, comme c'est Repark, ben, on voit jamais son visage du coup. Donc, on le voit que quand il est gamin. Puis après, même quand il boit du thé et tout, il y a toujours le masque et tout. C'est n'importe quoi. Alors, tu sais, c'est le fil rouge, t'as les deux ninjas. Ah ouais, bon, ils parlent pas trop, mais ils disent, ah ouais, toi, on sent que, ouais, on a un passif entre nous, et puis il y a toujours un moment où ils vont se latter la gueule et tout. C'est n'importe quoi. Alors, le truc, le rebondissement de scénario, c'est que à chaque fois qu'il y a le commando des méchants ou le commando des gentils, ils arrivent pas à faire un truc ou à un moment donné, il faut des super prouesses. Eh ben, ils ont pas Tom Cruise pour faire le truc avec des filins, mais ils ont les ninjas. Dans ce qui fait qu'à un moment donné, ils doivent cambrioler une super mallette par des méchants. Alors, c'est le ninja blanc qui va prendre ça. Après, le ninja blanc, il a la mallette, alors c'est super dur de lui enlever parce que c'est un expert en arts martiaux. Donc, du coup, les gentils vont mandater le ninja noir pour essayer de lui prendre. C'est facile d'être scénariste finalement. Donc, ouais. Donc voilà, G.I. Joe, Réveil du Cobra. Moi je l'ai vu. À un moment donné, il y a Sabrina qui est partie faire autre chose dans l'appart. Et je lui dis, tu veux que je te fasse pause? Elle me dit, non mais tu te fous de ma gueule. Donc voilà. Donc G.I. Joe, le Réveil du Cobra. Alors, vous avez une fin qui laisse sur sa fin, ça c'est le cas de le dire. Avec une fin ouverte, tu te dis, oh, il va y avoir des suites et tout. Et cool. Puis, et le cobra, à la fin, il fait trop peur, ça c'est bien. Alors voilà, c'est sorti en DVD en décembre dernier de Stephen Sommers. Voilà, bon, du G.I. Joe, finalement, je pense que c'est plus fun de jouer au jouet, hein, carrément. Voilà.
Tu veux dire que les jouets ont l'air plus vrais?
Ah, c'est pas con. Ouais. Peut-être.
Ça, je te laisse, tu peux le mettre sur le blog.
D'accord.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Bada bada, qui c'est qui a la zapette magique?
Eh oui. Et depuis le début de la semaine, est-ce que tu as regardé Sifi par exemple?
Non, j'ai pas cette chaîne.
Aïe aïe aïe.
Et je crois que je le regrette pas trop.
Ouais, peut-être. Parce que le logo a changé.
Ah.
Le logo a changé et c'est devenu Sci-Fi, S-Y-F-Y,
Sci-Fi,
avec Universal en dessous, Sci-Fi Universal. Eh ouais, la chaîne donc du câble et du satellite aux États-Unis créée en 92, hein, qui est arrivée en 2005 chez nous, hein, donc ça fait pratiquement 4 ans, et qui, pour vous souhaiter la bonne année, vous propose déjà la saison 3 inédite de Heroes, s'il vous plaît, qui a commencé hein, depuis mardi
dernier. De toute façon, sur France 4, il va y avoir les deux premières.
Ouais, et puis quand on a vu la deuxième, donc ils sont enlisés, ouais.
Alors, cette troisième saison, elle est décrite par ceux qui l'ont déjà vue comme étant de toute façon déjà en deux parties. Hein, une première partie, je me rappelle pas, qui a un sous-titre. La deuxième partie s'appelle Villains. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la première partie, donc de cette troisième saison, les scénaristes se sont un petit peu embrouillés et ont continué à nous rabâcher les oreilles avec ces histoires de voyage dans le temps, les trucs qui t'embrouillent la tête et tout, que à la fin tu comprends plus rien. Même les scénaristes sont paumés. Et donc, pour la deuxième partie de cette saison 3, c'est Tim Kring qui revient aux commandes, qui se dit bon ben je vais remettre la main au stylo. Ben non, mais c'est pas lui qui écrit tout seul, de toute façon.
Oui,
quoi. Voilà quoi. Mais bon, il avait plus ou moins délégué. Et puis bon, ok, il s'est rendu compte que ça marchait pas trop. Et donc la deuxième partie de la saison 3, qui est sous-titrée Villains, a l'air plus intéressante. Donc, car on se recentre un petit peu sur la période actuelle. Sur une
Je comprends pas. Ils ont réussi à reproduire l'erreur qu'ils avaient fait dans le deuxième. Ils savaient que c'était une erreur.
Bah ouais, mais bon, voilà. Quoi. Il fallait suivre quand même un petit peu par rapport à la deuxième, quoi. Hein, pour ceux qui ont réussi à suivre quand même. Donc ça, c'est à partir de mardi. C'était à partir de mardi dernier. Donc la saison 3 de Heroes. Mais il y a plus ou moins une séance de rattrapage si vous regardez vos trucs. Je crois ce soir ou demain soir, mais tard le soir, hein, à partir de 23h. Il y a également une nouvelle série qui a démarré mardi dernier, je sais pas où vous avez pu vous en parler samedi dernier, j'étais pas là, donc c'est Warehouse 13 qui est diffusé le mardi sur Sci-Fi. Alors c'est avec Eddie McClinton, Joanne Kelly, Saul Rubinek entre autres, et c'est encore une série dans la veine X-Files, on va dire, mais avec un petit quelque chose de différent. Ce sera à vous de juger sur place, parce que j'ai loupé la diffusion donc des premiers épisodes, j'ai pas pu me rendre compte de ce que c'était. Des agents qui sont envoyés dans un entrepôt secret du Dakota du Sud, où sont préservés par le gouvernement tous les objets ayant un rapport avec le surnaturel. Et toc, mon gars, oui, c'est pas du pitch ça.
C'est comme Sanctuary, ça. C'est dans Sanctuary, c'est les monstres, là, c'est les objets.
Ouais, mais à la différence de Sanctuary, où Sanctuary, ils sont adeptes de magie noire, c'est-à-dire qu'ils utilisent les armes de la magie et des êtres surnaturels pour les combattre. Là, ben, il s'agit d'agents du gouvernement, quoi. C'est-à-dire, bon, ben, ils vont venir avec les guns et tout. Avec leur vision un petit peu maïkaine des choses. Voilà, donc ça c'est sur Sci-Fi mardi prochain à partir de 20h45. Sinon, pas beaucoup de nouveautés. Saison 6 de Mon Oncle Charlie à partir de demain sur Comédie. Déjà, là c'est pas mal, hein. Là il tourne bien parce que bon, on avait la fin de la saison 5 la semaine dernière. Et, magnifique en plus, vraiment un truc excellent avec Robert Wagner, Jenny McCarthy, enfin bon, vraiment des trucs.
Je me demande si le tournage va pas être compromis par le fait que Charlie Sheen
a des problèmes d'ordre familiaux.
Devant le tribunal carrément.
C'est un récidiviste, il a menacé de mort sa nouvelle femme. Après Denise Richard, Brooke Muller.
Et il y a même son père qui a témoigné devant le juge en disant non, mais de toute façon, il est incontrôlable et quand il promet qu'il arrête de boire, il ne le tient pas.
Quand
c'est quelqu'un qui a démoli le colonel Marlon Brando, on l'écoute.
Et c'est quand même lui l'acteur le mieux payé au niveau. Série télé. Hein.
Ah ouais.
C'est l'acteur le mieux payé, Charlie Sheen, hein, donc attention quoi. Non, mais il faut dire que bon, tant mieux pour lui,
parce qu'il a eu des années de galère.
Non, mais il faut reconnaître une chose, c'est que c'est une série qui, à l'instar d'autres séries qui ont aussi bien marché et qui ne se sont jamais affaissées avec le temps, là, je veux dire. Ça va de mieux en mieux, quoi, on peut dire.
Hein, sauf que le gosse, il grandit.
Oui, mais justement, le gosse a changé un petit peu par rapport à l'origine. Hein, et c'est pas mal, c'est assez bien utilisé, moi, je trouve. Quoi. De toute façon, c'est vraiment une série qui est excellente, début jusqu'à la fin. Il n'y a jamais de temps mort. Enfin bon, c'est vraiment... vraiment chapeau. Donc c'est demain soir 20h40, donc la saison 6 de Mon Oncle Charlie. Sinon, au niveau nouveauté inédite, semi-dédite, on va dire. C'est sur Arte, Arte qui va proposer à partir de cette année une diffusion de plusieurs séries hein, qu'on attend avec impatience, dont Breaking Bad par exemple, hein, dont je vous ai rebattu les oreilles à une certaine époque, qui a été émigré chez Orange, donc bon, un peu difficile à regarder. Là, on nous le promet donc sur Arte pour le courant de l'année. Et la première bonne surprise, c'est cette série anglaise. J'avais pu voir l'épisode pilote, je me rappelle pas à quelle occasion, mais en tout cas ça m'a laissé une excellente surprise. Ça s'appelle Les Flingueuses. Ça sera diffusé sur Arte mardi prochain à partir de 22h35. Alors le postulat de base sur Arte. Alors le postulat de base, c'est un couple dont le mari est flic et ils ont envie de fuir la grande ville, Londres et tout ça. Et ils vont emménager dans une petite banlieue, Little Stampington, je crois que ça s'appelle. Hein, genre la fameuse banlieue anglaise, tranquille, calme, avec les petits jardins et tout. Mais il s'avère que le quartier où ils emménagent, eh bien, est entièrement maqué, un petit peu à la Desperate Housewives, tout le monde se connaît. Mais par contre, pour des choses que la morale et la loi réprouvent, quoi, on va dire, quoi. Et c'est complètement déjanté, c'est hyper speed et tout. Alors c'est les mamies qui vont régler leur compte à coups de fusil à pompe.
Ah
ouais, non, c'est vraiment
c'est l'ambiance, quoi.
C'est du Desperate Housewives mélangé à Abfab, tu vois, avec un peu plus de délire, quoi. Beaucoup de situations légèrement scatologiques. Vraiment, un truc qui te rend, qui te fout la banane, franchement, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bien, c'est super. Toujours bien interprété, c'est anglais, donc avec Anna Chancellor, Felicity Montag, Amelia Bullmore, Ralph Ineson, hein, dans le rôle du flic. C'est vraiment super bien, du moins là, le pilote que moi j'ai pu voir, ça m'a laissé vraiment une excellente impression. Donc c'est sur Arte à partir de mardi prochain, 22h35. Sinon, sur Canal Jimmy ce soir à 20h40, inédit également, hein, c'est Meurtre à l'anglaise. Alors c'est la série tirée des bouquins d'Elizabeth George, qui paraît-il sont pas bien, qui sont merdiques, parce que Elizabeth George, c'est une américaine, mais qui écrit des bouquins qui se passent en Angleterre. Donc la nana, tu sens qu'elle est bien documentée, qu'elle connaît son sujet bien, nickel et tout, pour faire du roman à l'anglaise, mais ça le fait pas trop, quoi. Alors que justement la série,
elle est pas mal,
avec Nathaniel Parker et Sharon Small, est vraiment excellente, très très bonne, hein. C'est de la série anglaise d'excellente facture, on peut dire ça. T'atteins pas les sommets, hein, mais ça reste toujours d'un très très bon niveau. Ça c'est dû bien sûr à l'interprétation excellente et au rapport qui existe un petit peu entre Nathaniel Parker, qui est le flic en chef, mais qui est issu d'une famille noble, qui a plein de pognon, qui n'a pas besoin de travailler en fait. Lui fait ça pour le fun, hein, il fait pas ça pour la paye à la fin du mois. À Sharon Small, donc, qui est son adjointe, et qui elle justement, c'est la fliquette qui est là, qui a du mal à joindre le debout et tout. Alors donc c'est au travers des enquêtes qu'ils vont mener et tout, on va voir justement cette espèce de, et puis bon, la vie qui mène, hein, parce que bon, Parker, hein, d'ailleurs, une vie amoureuse assez bien remplie avec sa femme. Vont-ils avoir un enfant et tout? Dans le dernier épisode, sa femme meurt, quoi. Beaucoup d'événements dramatiques. Enfin bon, c'est très très bien traité. Donc ça se laisse vraiment très très bien regarder, Meurtre à l'anglaise. Sur Canal Jimmy, c'est ce soir à 20h40 avec un épisode de 2007, Découverte macabre. Sinon, une autre chose dont j'aurais dû vous parler si j'avais été là, mais que j'ai pas pu. Et c'est bien dommage, parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui devrait intéresser Xavier. Un petit spin-off de MI5, Spooks,
qui
s'appelle,
yes,
Code 9. Code 9, ça a été diffusé sur Série Club, en fait c'est une mini-série, il n'y a que 6 épisodes, mais le postulat est assez intéressant parce que on part dans le futur, donc il y a une espèce de petite anticipation comme ça qui est assez sympathique. On est en 2012, et en 2012 un attentat nucléaire a eu lieu à Londres et a explosé, a tué 100 000 personnes. Donc de ce fait, l'état de siège est décrété, et le MI5 va créer une nouvelle cellule qui va être une cellule d'infiltration des milieux terroristes. Et cette
ça tombe bien, parce qu'à chaque fois ils sont toujours plantés, les services secrets anglais, dans ce secteur, hein. Alors, ils ont toujours été dans la merde.
Et cette nouvelle cellule, donc,
et justement dans MI5, dans la saison 2, ils se font retourner plus d'une fois à cause de cela, hein.
Oui. Non mais là si tu veux, bon, on est dans le futur. Alors donc on peut On n'a pas besoin de d'avoir tout le background qu'il y a dans Heavy Five. Il y a quelques allusions qui sont obligatoires, bien entendu, hein, parce que bon, bah, il y a quand même le ce qui s'est passé un petit peu avant, mais on est quand même dans le futur et tout. Et donc, c'est cette équipe qui, quand on regarde les photos, on se dit bon, bah, c'est un truc trip plus ado, adolescent et tout, parce que ils sont tous très jeunes, toute l'équipe est très jeune, mais en fait, les scénarios et les histoires sont quand même assez noires, hein. Il y a des morts, il y a des cadavres et tout, c'est du moins 10, des fois du moins 12 quand même, hein. Ah même oui. Que ce soit un thé, pour le, l'ensemble de l'équipe, hein, de Code 9, bien, par des gens assez jeunes, du moins d'apparence, hein. Ça fait plutôt penser à ado ou post-ado, quoi, tu vois, pas encore adulte, quoi. Donc, mais c'est assez sympathique, ça se laisse vraiment regarder. Donc, séance de rattrapage, c'est ce soir sur Série Club avec les deux premiers épisodes à partir de 23h10. C'est donc cette série anglaise qui s'appelle Code 9.
Ça veut dire, si ça passe sur Série Club, que c'est M6 qui a les droits.
Ouais, mais enfin, bon,
alors que ME5, c'est Canal Plus qui a les droits et qui le revend après à France Télé.
Ouais, mais si tu veux, il vaut mieux le voir sur Série Club, où tu es sûr de pouvoir le voir en version originale, oui, sous-titré sans problème et tout, que sur une autre chaîne où t'as toujours un truc qui déconne, quoi. Sinon.
Tu veux dire la dernière feuille du conducteur?
Sinon.
non, sors là la dernière feuille du conducteur, tiens.
Quelle dernière feuille du conducteur?
Celle-là, c'est un article qui était sorti dans Télérama. C'était pourquoi TF1 diffuse dans le désordre. Alors d'habitude, c'est parce que t'as des épisodes qui sont moins 12, moins 10, ils peuvent pas à 20h30.
Ouais.
Et The Mentalist, t'en as aucun.
Bah non.
T'en as aucun. Alors qu'ils expliquent pourquoi, quand ils ont passé d'abord le premier, puis le 5 et le 7. Et ils ont dit que nous passons d'abord les meilleurs épisodes.
Ah ouais.
Nous avons une série à installer. Et il y a un responsable d'une chaîne. D'une autre chaîne qui confiait ils sont forts à TF1, ils savent mieux que les scénaristes américains quel ordre doit avoir une série. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a trois épisodes qui concernent donc l'histoire séminale, hein, du mentaliste, comme quoi sa femme et sa fille ont été assassinées par un tueur en série qui s'appelle Red Jack, et comme quoi, non mais vous inquiétez pas, l'épisode de conclusion de Red Jack sera diffusé en dernier. Oui, alors que l'épisode 1 soit diffusé en premier et l'épisode 23 soit diffusé en dernier, ça me semble un petit peu normal. Mais maintenant, on sait que c'est pas uniquement pour des raisons d'âge. C'est vraiment pour se foutre de la gueule de nous, quoi.
Non, ils se foutent de la gueule du public. Ils s'imaginent que les gens qui regardent la télé ne sont pas assez intelligents pour pouvoir intégrer d'autres notions que le simple ou du nit de ce genre de série, hein, mentaliste, bon, bah, c'est un Houdinit amélioré, avec une petite teinte de Dr. House pour la caractérisation du personnage, mais bon, ok, hein, c'est sympathique, sans plus, quoi, on va dire.
Alors, ils disent que ils peuvent se le permettre parce que tout simplement ce sont des histoires complètes et que ce n'est pas une série feuilletonnante comme Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, dans les deux premières saisons, et ils ont passé dans le désordre. Ah oui, non, c'est du foutage de gueule, quoi.
Ouais, non, mais bon, laisse tomber, quoi.
Et pourtant, il est bien, mentaliste. Hein. Déchire. Tu l'as pas vu, Thomas ?
Non, j'ai pas vu du tout.
Si, c'est pas mal. Assez,
C'est assez fun. C'est assez rigolo.
C'est assez rigolo.
Ouais, il provoque un meurtre.
D'accord.
et sans froid et tout. Et non, c'est assez fun. Hein, c'est... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bon, ok, pour lui, raison et enquête, c'est comme ça. Ok, ça y va. Enfin, bref.
Dus.
Bon, mais pour les séries, c'est bon, hein.
Ah, d'accord. Bon, d'accord.
Oui.
Alors, qu'y a-t-il au cinéma?
À
la télé. Alors, ce soir, laisse-moi deviner.
Alors, il y a pas mal de bouse, quoi.
Clint Eastwood 2 ce soir?
Non, mais il y a plus tard, quoi. Il y en a. Alors, ce soir, un bon
Western
spaghetti.
Ouais, gagné.
Spaghetti.
Oh.
Ah. Sur RTL9, bien sûr, 20h35, Sabata, le seul, le vrai, l'original de Gianfranco Paoli.
Oh là, chérie, avec, je vais chercher la sauce tomate.
Avec Lee Van Cleef, bien sûr, et William Berger, Linda Veras, entre autres, donc ce soir sur RTL9, Sabata. Sinon, sur TF6, à 00h05, Les Dents de la Mort de Charles Robert Carver, moins 12 quand même, avec Lou Diamond Phillips, Christy Swanson et Coolio. Hein, ça, ça oh là là. C'est pas mal. Et alors, Christy Swanson, on rappelle que c'est quand même elle, choupette Buffy à l'origine dans le film. Hein, Buffy, la tueuse de vampires. Christy Swanson, elle fait très fort parce que elle est également sur AB1 à 22h20. Alors si vous pouvez dépêcher, vous allez voir qu'elle va passer à 23h55. Elle prend ses affaires à la fin du film et puis hop, elle va dans les Dents de la Mort carrément parce que avant, elle est sur AB1 à 22h20 dans Sanction Fatale de John Terlecki avec donc Christy Swanson, Michael Madsen, Ron Perlman et David Dukes. Elle s'en fait du beau monde hein, quand même.
Ouais, mais ça fait quand même un titre chier. C'est un titre nanarisant.
Ah ouais, mais ça c'est évident hein, de toute façon, il y a pas de problème. Oh. Sinon
rajoute American Ninja 6 et
pour faire le contrepoids avec les deux bouses que je viens de vous balancer, un chef-d'œuvre sur TCM à 22h45, West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins, Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, ouais, I wanna go to America, si. Et Rita Moreno, hein, bien sûr.
Oui. Aussi, hein. T'allais l'oublier.
Ouais, non.
Mais bon. C'est elle qui chante justement cette chanson. Ouais.
Alors demain sur Arte à 20h40, pour ceux qui l'ont pas encore vu et qui savent pas que c'est quand même un très bon film, Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack avec Robert Redford, Fight No Way, Max von Sydow. Là, c'était dur à lire hein, quand même quoi. Ou sinon demain soir.
T'as besoin du conducteur pour savoir qui est dedans.
Sinon demain soir sur Direct 8, une soirée avec deux films de guerre. Ouais. Tout d'abord le Pont de Remagen de Guillermin avec Ben Gazzara, Robert Vaughn, George Segal entre autres. Et après à 22h45 la bataille d'El Alamein de Giorgio Ferroni. Giorgio Ferroni qu'on connaît vachement plus au début des années 60, fin des années 50 pour ses réalisations de Massiste, de Hercule et tout ça. Hein, lui c'est un spécialiste du péplum hein, mais qui après bah s'est reconverti bien entendu avec dans cette bataille d'El Alamein, Frédéric Stafford, un des OSS 117 originaux, George Hilton, Robert Hossein et Ira de Fürstenberg, s'il te plaît. Bon. Ah oui. Sur 13ème rue, à 20h40, demain, le retour de l'inspecteur Harry, avec c'est celui avec Sandra Locke, qui à l'époque était sa femme, hein, c'est elle qui est là, qui se venge là, tu sais.
Oui.
Voilà, oui. D'accord, ok.
Mais c'est qu'on celui-là. Retrouvera aussi dans l'épreuve de force, Sandra Locke.
Oui, mais ça c'est celui qui est sorti. C'était le retour en fait quoi par rapport à la série de qui était sortie dans les années 70.
C'est parce qu'il y a entre temps il y a eu Magnum Force avec David Soul et ensuite il y a eu le retour de l'inspecteur Harry plus tard.
Oui.
Tu peux non mais t'as vraiment un chat dans la gorge, si tu peux parler plus dans le micro
c'est voilà. Sinon demain sur la chaîne Polar, deux excellents films à 21h, la brigade des stupéfiants, je vous en ai déjà parlé, le film de Benedek avec Scott Brady, Katie Stevens et Yul Brynner dans son premier rôle à l'écran, et à 22h25 ça c'est pour la bonne bouche, Agent 077 Opération Jamaïque de Jess Franco en 64 avec Conrando San Martin, Danick Patisson et Perla Cristal. Aïe aïe aïe.
Jesus Franco alias quand même le staccanoviste du film Z espagnol.
Ouais mais à l'époque je peux dire qu'il savait vraiment filmer les culs, ça il faut lui laisser, il n'y a pas de problème. Non,
mais il sait toujours hein.
Oui, non, mais là, à l'époque, quand même, en noir et blanc, je veux dire, ça a une autre portée. Vraiment, ça a une autre portée. Donc, Opération Jamaïque Agent 077, c'est sur Polar, donc demain soir à 22h25. Alors, attends, je me suis mélangé les feuilles, là, quoi. Voilà, c'est ça. Lundi, une bonne bouse sur M6 à 20h40, Ghost Rider. Mendes, Brett Cullen.
On est fiers d'en avoir parlé.
Energy 12. Avec Mendes. Sur Energy 12, une soirée pas mal parce qu'une soirée Heroic Fantasy. Alors, moi, j'aurais inversé, tu vois. Parce que tout le monde, certainement, a déjà vu Conan le Barbare. Mais enfin, bon, c'est toujours sympa de revoir de temps en temps, quoi. Ouais. Hein. Et à 22h45, c'est de l'inédit, un téléfilm qui s'appelle Dragon Quest, très récent, hein, 2009, de Mark Atkins, avec le beau, le magnifique, mais un petit peu bodybuildé maintenant, Mark Singer.
Oula, ah oui.
Et là, il est torse poil et tout, avec la petite jupette et puis le gros sabre et tout, façon Conan, quoi, tu vois. Quoi.
Et c'est sur quelle chaîne, ça?
C'est sur Energy 12, donc lundi, hein, après Conan le Barbare.
Et alors, je vais certainement te poser une colle, mais est-ce que c'est un rapport avec le jeu vidéo Dragon Quest?
Ah, je pourrais pas te le dire. Bon, là, franchement, non.
Bon, okay. On vous dira ça samedi prochain.
Alors. Vas-y, fais péter le... fais péter le truc. Je continue lundi sur 13e rue à 20h40. Commando de l'ombre de Stephen G. Munder. Également récent 2009 avec Mark Dacascos, ouais. Bruce Boxleitner, Armand Asante, Tom Sizemore, Stephen Bauer. Oh, ça, merde. C'est du commando
ah,
qui ouais. tue, quoi.
Ah là, il faut pas les faire chier, hein.
Non, il faut pas les faire chier. Et donc c'est sur 13e rue lundi à 20h40 sur Sifi lundi à 20h45.
Ça n'a aucun rapport et apparemment c'est une traduction Dragon ah, Quest, oh, merde. Une traduction française.
D'accord.
Ah bon bah ok, bon bah tant pis quoi. Alors sur Sifi lundi à 20h45, SS Doom Trooper de David Flores, Corinne Nemec, Marianne Filali, Ben Cross, il y a même Ben Cross là-dedans. Durant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de soldats a pour mission de détruire une créature humanoïde redoutable. Ça c'est du SS Doom Trooper, donc c'est sur Sifi demain soir 20h45, vérifié par vous-même Corinne Nemec. Et peut-être que celui-là je l'ai pas vu et je le regrette profondément d'ailleurs, c'est sur TF6 lundi à 23h05, Vampire 3. On connaissait Vampire, le premier de Carpenter. On connaissait le 2 avec Bon Jovi, qui est sympathique quand même.
Oui, pour. Hein ouais.
Franchement, c'est pas une bouse. Hein, c'est quand même sympa. Hein. Bon, c'est pas l'original, c'est sûr. Mais enfin bon.
Ça reste du rock FM, hein, Bon Jovi.
Et là, ben, je savais pas qu'il y avait un Vampire 3, hein, tourné par Marty Weiss en 2003. Ça s'appelle La dernière éclipse du soleil avec Colin Egglesfield et Meredith Monroe. Alors là, laisse tomber. Mais ça vaudra peut-être son pesant de cacahuètes. Demain soir, sur Polar, à 21h, Marché de Brut d'Anthony Mann en 48 avec Dennis O'Keefe, Claire Trevor, John Ireland et Marsha Hunt, où ça dépote grave, enfin ça castagne pas mal, quoi, hein, c'est assez violent quand même, quoi. Mardi, sur France 2, 22h50, c'est la semaine Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel. Très bon film, hein, avec Patrick McGowan. Fred Warren, McGowan, en plus, c'est le patron de la prison, et en plus, il s'appelle Warden, tu vois. Alors qu'en anglais, The Warden, c'est justement le patron de la prison.
Ah, d'accord.
Ça, c'est rigolo, quoi.
C'est celui qui aime pas être peint.
Voilà, quoi. Et sur 13ème rue, celui-là, de toute façon, chaque fois qu'il passe, je vous le cite, 22h10, Extrême Préjudice de Walter Hill, 86, Powers Booth, Nick Nolte, hein, du grand, du lourd, du tatoué, ou alors sur AB1.
Retour.
20h40, double impact de
chef
de
Netflix.
Bah ouais, quand même, merde. Et alors, quoi, hein, c'est le seul de la semaine. Hein,
ok, servi, je passe.
Mardi, toujours sur Polar à 21h, Copland ouvre le feu à Mexico de Ricardo Freda. Ricardo Freda, hein, qui nous avait fait également du Pepom dans les débuts des années 60, là, dans 67. Donc, on fait un petit peu du James Bond et après, on
avec
ira faire un tour.
Avec les licences disponibles.
Après, on ira faire un tour du côté du Western Spaghetti et dans les années 70, on fera de l'eau. Horreur, bien sûr, hein, où il a fait de très bons films d'horreur, hein, Ricardo Freda, avec donc dans le rôle de Copland, Lang Jeffries, Sabine Sun et Robert Party. Mercredi sur Sifi à 20h45, Absalom de David Bartow en 2003 avec Christophe Lambert, Lou
en
Diamond,
2010,
Phillips.
En 2010, la population menace de dépérir à cause d'un virus.
Ça s'appelle Absalom.
Ouais, Absalom. Voilà.
Le seul remède, Christophe Lambert, qui vient vous injecter de l'Absalom. Prenez-en deux doses plutôt qu'une.
Moi, je connaissais Absalom 2022, mais.
Ouais, non, ça en est un autre, ça.
Ça va voir que c'est aussi le titre d'une œuvre catastrophique, mais bon. D'accord. Avec Christophe Lambert.
Blaxploitation à présent avec la soirée ciné-cinéma club, trois films carrément et pas des moindres, hein, 20h40, Les Nuits Rouges de Harlem de Gordon Parks avec Richard Roundtree, bien sûr, c'est une soirée également Richard Roundtree de toute façon, quoi. Ensuite à 22h25, Les Trafiquants d'Hommes de John Guillermin en 73 et à 0h15, Les Nouveaux Exploits de Shaft, toujours de John Guillermin, toujours la même année en 73 avec bien sûr Shaft, John Shaft, Richard Roundtree.
C'est après ce film qu'ils ont fait la série, si je me souviens bien.
Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est les films originaux, hein, Les Nuits Rouges à l'Ardenne et tout ça. Jeudi sur France 3 à 20h35, La dernière cible de Buddy Van Horn, avec Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson qui joue le rôle de Axel Rose. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, hein, c'est, il joue le rôle du chanteur. Et le groupe, c'est Guns N' Roses, puisque tu vois, un moment, quand ils sont sur le bateau, tu vois, Slash, et tu vois l'autre, le blondinet, je me rappelle pas comment il s'appelle, quoi. Enfin bon, les mecs, de Guns N' Roses, hein, de toute façon, quoi. Mais, et t'entends la musique et tout, c'est, Welcome to the Jungle, je crois qu'ils font, quoi.
Welcome to the Jungle.
Et en fait, c'est Liam Neeson qui joue le rôle du chanteur du groupe, quoi, tu vois. Alors, c'est assez rigolo, quoi. Paris Première, bah, ça va être difficile de choisir parce que Paris Première, en même temps, même horaire, 20h35, vous diffuse un autre Clint Eastwood, c'est L'Homme des Hautes Plaines. Oh. Avec Vernablo, Mitch Ryan, Jagging et tous les autres. Et à la suite du Clint Eastwood sur Paris Première jeudi prochain, Alien 3 de David Fincher.
Comme ça, là.
Bah ouais, comme ça, vas-y, bah, allez.
Il passe toute ta série, là, sur
Paris. Allez. Allez, je te le fais comme ça, quoi.
Et il le passe pas. Il est pas en VO. Je suis dégoûté. Je pensais
quoi,
que Alien.
Sur Paris Première, si.
Sur Alien, le premier n'était pas en VO. Je trouvais ça déplorable.
Ah, bah oui, mais bon. Sur Direct.
Qu'est-ce que tu te fais chier? Je l'ai côté en VO.
Et encore sur
Brawl aussi.
Ouais, un film de guerre sur Direct 8 encore jeudi prochain, le Bataille des Ardennes de Ken Anakin avec Henry Fonda, Robert Shaw, Charles Bronson, Robert Ryan et Dana Andrews. Vendredi, vendredi. Alors, NT1 vous propose Amateur 35, Otage en Alaska de David Stratton. Avec Greg Evigan et Rachel Crawford, c'est l'histoire de scientifiques qui vont faire des expériences en Alaska et puis ils se font choper par des aliens qui veulent. Enfin bon, voilà quoi. Sur AB1, c'est pas mieux, mais là c'est tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle Otage à 20h40 de Peter Markle en 2003. L'histoire de ce militaire là qui avait été capturé par les par Saddam là pendant la guerre d'Irak, c'est tout au début là.
En 91. Ouais, ce qui on s'est paumé, on est 200 km à l'intérieur des terres, mais donc, je vous jure on croyait qu'on serait qu'on était au Koweït.
Bien sûr, ouais. Ça a été adapté, ça s'appelle Otage avec Laura Regan et Brent Sexton. Sinon, cinéma classique vous propose quand même un film impeccable, Le Renard du Désert. C'était bien entendu Erwin Rommel. Le film de Henri Hathaway en 51 avec James Mason, donc dans le rôle d'Erwin Rommel, Luther Adler et Jessica Tandy.
C'est pas pour faire l'apologie du nazisme ou quoi que ce soit, mais Rommel venait d'une famille qui est une tradition militaire, donc il était pas franchement nazi.
Non, pas trop. Non.
Pas du tout même. Hein, il était en opposition d'ailleurs sur pas mal de points de vue avec Hitler, mais il obéissait aux ordres et il a eu un destin tragique parce que c'était un très très bon stratège, mais il s'est retrouvé à chaque fois dans les situations pas possible, sous-armé et tout le reste.
Ouais, non, mais bon.
D'ailleurs, il respectait beaucoup les Anglais. Hein,
dans le film de Hathaway, de toute façon, hein, ce n'est pas un film à charge du tout. Hein, il est vraiment, on va pas dire glorifié, mais
respecté.
James Mason, déjà, il rend bien le personnage et tout. Vraiment, là, c'est. Et on termine avec un western sur la chaîne Action vendredi prochain, 21h, une corde, un Colt de Robert Hossein en 68 avec Robert Hossein. Et bien entendu, Michel Mercier, il s'était connu du côté des Angéliques. Outre Michel Mercier, on trouve également Serge Marquand. Donc une corde, un Colt sur Action vendredi prochain à partir de 21h.
Il faut mieux entendre ça qu'être sourd et aller chez Audica. Non, elle était nulle.
Audica, je cherche.
Bah, il fait la pub.
Ah oui.
D'accord. Les prothèses.
Oui, ok. Pardon.
Bon, d'accord, ok. Je ne ferai plus de blagues aussi moisies. Thomas, s'il te plaît, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent encore en FM.
Oui.
Tu sais, la radio analogique, le truc qu'on doit remplacer par la radio numérique et que ça veut pas prendre. Et il y en a, ils prennent l'émission en cours de route, sont arrivés en retard et tout, manque de piles dans le poste, ils sont glissés sur le verglas et tout le reste. Et ils ont manqué le début du supplément week-end.
Eh bien, heureusement, on peut faire le procès-verbal de l'émission en leur disant ce qu'ils ont loupé, entre autres.
Oh, c'est gentil.
On est comme ça, nous. Alors, ils ont loupé, entre autres, un bug en guise d'introduction, des nominations pour de la bande dessinée, une disparition, des insectes, du Batman rouge, des jouets au cinéma, des mamies avec des fusils à pompe. On a eu Coolio, Choupette, à l'époque, on savait, filmer les culs, le retour de McDonovan, mais en jupette. Le retour du grand lourd est tatoué, du JCVD et du Christophe Lambert. Plein de Clint Eastwood et des aliens en Alaska.
Nom d'une plaque de verglas et de 10 cm de neige dehors. Les doigts, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous n'avez pas à sortir de chez vous pour écouter ça. C'est très simple. Ça s'appelle le podcast. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission en allant sur supplementweekend.fr et accessoirement, vous vous rendez compte, vous pouvez vous inscrire, lire les chroniques écrites. Par exemple, cette semaine, c'est pas les chroniques écrites. Il y a le remix de nos intros de 2009 et l'interview en vidéo d'Alex Pilot.
Ah bon, c'était peu de trucs mais du lourd quand même.
Et accessoirement, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr allez-y. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Là, dans le prochain épisode du zombie par téléphone. Et ça devrait être fun, voilà, normalement. Si je ne me trompe point, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.
Ciao.
Et de suite, c'est du sport.